Cube Radio.
Les Dolphins de Miami ont eu de grands quarts arrière comme Bob Greasy et Dan Marino. Une saison parfaite, des Super Bowls. Mais est-ce qu'avec l'arrivée de Tua Tagovailoa, c'est le nouveau d'un chapitre glorieux pour les Dolphins? Les Patriots sont avant-derniers de leur division avec une fiche perdante. Est-ce le début de la fin pour la dynastie de Bill Belichick? Après 6 semaines où l'attaque a fait la pluie et le beau temps, la défensive reprend tranquillement ses droits. Est-ce que, comme les Browns, les Titans vont revenir sur Terre cette semaine contre les Steelers de Pittsburgh? Et une nouvelle course se dessine dans la NFL. Qui terminera dernier et aura la chance de repêcher le quart étoile de Clemson, Trevor Lawrence? Bienvenue à une autre édition de La Zone payante. Mon nom est Jean-Nicolas Gagné. Je suis en compagnie de Jean Carrier, ancien entraîneur et analyste des matchs du Rouge et Or. Salut Jean.
Salut.
Et Stéphane Cadorette, expert au Journal de Québec et de Montréal en football de toutes sortes. Salut Stéphane.
Salut messieurs, content de vous retrouver.
Oui, écoute, content de retrouver une semaine où on parle pas trop de COVID. En tout cas, on se croise les doigts. Même que cette semaine, l'absence de COVID et les matchs qui ont tous eu lieu, ça nous donne la chance de parler de football et on commence avec un changement de garde à Miami. And a big ovation as Tua Tagovailoa trots on the field for the first time. Like anyone in this building, but it's still loud.
Even Fitz is leading the ovation. Oui, effectivement, c'est gros, puis ça nous a pris par surprise. L'annonce a eu lieu quoi mardi matin. Tua Tagovailoa qui devient le corps arrière partant des Dolphins. Tu sais, on s'attendait à ce qu'il joue un jour ou l'autre dans la saison, mais ce qui surprend, c'est le timing, au sens où Ryan Fitzpatrick jouait de manière quand même décente, disons-le comme ça. Tu sais, c'était pas un grand corps arrière. Ça justifiait pas là, nécessairement la situation de le renvoyer au banc. Mais les Dolphins ont certainement vu des choses en Tua à l'entraînement. Puis surtout, moi, je me suis posé la question quand l'annonce a été faite, pourquoi maintenant? Il y a deux éléments qui jouent en la faveur de Tua. Évidemment, les Dolphins sont en bail cette semaine, donc ça leur permet de l'amener tranquillement dans le bain, de lui donner plus de répétitions à l'entraînement. Avec les partants, ça c'est une chose, là, parce qu'il faut que tu développes la chimie avec les partants, c'est beau d'être bon à l'entraînement, mais encore faut-il jouer avec les numéros 1. Donc ça va pouvoir se faire de manière plus graduelle. La deuxième chose aussi, c'est que tu sais, Fitzpatrick amenait du bon aux Dolphins, mais ça reste Fitzpatrick. Une semaine, c'est Fitzmagic. La semaine d'après, c'est Fitztragic. Moi, j'aime bien le présenter comme ça, parce que c'est des montagnes russes perpétuelles, lui, là. Donc, t'as beau te dire, oui, les Dolphins sont 3-3, sont dans la lutte pour les séries, même pour la tête de leur division avec les Bills et les Patriots, est-ce qu'il serait pas mieux d'y aller avec le vétéran? Mais quand le vétéran, tu sais, offre des performances qui sont parfois excellentes, parfois très décevantes, t'as pas beaucoup plus de stabilité qu'avec une recrue. Tu sais, va falloir que Tua apprenne de ses erreurs comme tout bon jeune corps arrière. Mais je pense que les Dolphins ont décidé de l'envoyer dans une situation où ils peuvent se permettre un rare luxe. C'est-à-dire que les jeunes corps, souvent, on le voit, les gars, soit ils embarquent dès le premier match de l'année, on peut penser à Joe Burrow puis d'autres exemples dans le passé, ou ils embarquent dans une situation où le corps arrière partant est blessé, bon, c'est une catastrophe, ils sont vite lancés dans l'eau, c'est pas toujours la meilleure façon. Ou encore une situation où l'équipe est, mettons, une victoire, 5-6 défaites, on a abandonné tout simplement la saison. Puis là, t'as des vétérans dans l'équipe qui boudent un peu, qui traînent la patte, qui sont pas nécessairement à leur meilleur. Là, tout le monde chez les Dolphins actuellement pousse dans la même direction. Je trouve que c'est un contexte favorable pour amener Tua dans la mêlée. Fait que, tu sais, somme toute, oui, il y a des questions par rapport au move, mais moi, de manière générale, c'est un geste que je qualifierais d'audacieux puis qui devraient bénéficier aux Dolphins parce qu'ils vont donner un vrai échantillon de football à leur corps arrière dans des vraies situations de match avec un vrai volume, là, plusieurs matchs d'ici la fin de la saison. Donc ça, je considère que, somme toute, là, c'est une bonne décision pour ma part.
Mais les amateurs des Dolphins se plaisent à dire que Dan Marino a été lancé dans la mêlée alors que les Dolphins avaient une fiche de 3 victoires, 2 défaites, donc un peu similaire. Toi, Jean, t'en penses quoi?
Moi, je pense que les entraîneurs, c'est les mieux placés présentement pour voir le travail de Tua, surtout en pratique. Est-ce que présentement, il est meilleur que Fitzpatrick? On le sait pas. Tu sais, c'est les seuls qui ont cette réponse-là, c'est les entraîneurs des Dolphins. On se rappelle d'Alex Smith, tout allait bien quand même à Alex Smith avec les Chiefs, puis l'année sur le banc a montré à Andy Reid que Mahomes était rendu vraiment supérieur à Alex Smith, donc il a fait le move pour transiger Alex Smith par la suite, puis on connaît la suite, Mahomes a tout simplement explosé. Est-ce que Tua est rendu à ce niveau-là? J'en doute un petit peu, ça reste un carrière d'avenir, puis la vérité là-dedans les gars, c'est que Ryan Fitzpatrick, les Dolphins, ne gagnait pas de Super Bowl avec lui cette année. Non. C'est ça la vérité. Avec Tua, c'est l'avenir. Et je pense que c'est un move pour la franchise, tout simplement.
Jean, avant qu'on aille plus loin, moi, j'aimerais ça renchérir parce que je trouve très intéressant ton point là, sur la comparaison avec Mahomes. Pas au niveau du niveau de jeu ou du style, là, c'est pas là qu'on est. Mais par rapport au fait que les Chiefs avaient certainement vu des choses à l'entraînement, moi, ça me ramène, avant la saison 2018, j'avais été faire un voyage à Kansas City, puis j'avais parlé à Laurent Duvernay-Tardif de plein de sujets, de son nouveau contrat, puis etc., etc., mais dans les sujets, il y avait évidemment comment l'équipe entrevoyait le passage du flambeau entre Alex Smith puis Patrick Mahomes, parce qu'il faut se rappeler qu'à l'époque, Mahomes, c'était pas Mahomes, là. Personne savait ce dont il était capable, qu'est-ce qui pouvait arriver, donc... Laurent avait été clair là-dessus, il avait dit « Stéphane, tu vas voir une chose, je peux te confirmer qu'on va marquer beaucoup, beaucoup de points cette année. » Puis l'histoire lui aura donné raison. Ce que ça veut dire, c'est pas que Laurent c'est un devin, ça veut dire que les Chiefs voyaient ce qu'ils avaient sous la main à l'entraînement, ce qu'on peut pas voir nous comme analystes ou comme public. Les coachs ont accès à des données auxquelles on n'a pas accès. Puis, je suis convaincu, connaissant le style de Brian Flores, qu'il a vu ce qu'il y avait à voir avec toi, à la fois au niveau de la santé, de la préparation, autant physique que mentale. Je pense qu'il sait qu'il a le bonhomme entre les mains, puis que c'est le temps de le lancer dans la mêlée, là, comme je le disais, dans un contexte plus favorable.
Ouais, il va affronter Aaron Donald, par exemple, pour son premier match. Ça risque...
Ouais, mais écoute, t'as quand même envoyé Washington a quand même envoyé Alex Smith sur une jambe, puis il a survécu à Donald. Fait que...
C'est vrai, c'est un bon point. Et toi, Jean, qu'est-ce que tu retiens comme histoire pour cette semaine?
Écoute, c'est sûr que moi, la défaite des Pats contre les Broncos, ça a pris, je trouve, beaucoup de monde par surprise. Là, il y a un certain questionnement par rapport au club de la Nouvelle-Angleterre. Est-ce que c'est la fin de la dynastie? Là, il faut juste prendre son gaz égal, les gars. Il faut respirer par les trous de nez. Ça reste les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Première des choses, il n'y a rien qu'on ne savait pas. On savait que les Pats allaient avoir une baisse de régime cette saison. Donc, présentement, c'est ce qu'on voit. Mais ça reste quand même un club, je pense, qui va compétitionner pour une place en série, qui va être pas loin de 500, peut-être un petit peu en haut, peut-être un petit peu en bas. Mais c'est ce qu'on voit. Puis, la vérité aussi, c'est que c'est vraiment la première contre-performance des Pats depuis le début de l'année. Je tiens à dire qu'ils ont joué un très bon match sur la route qui aurait pu mériter une victoire face aux Seahawks. Ils ont joué un excellent match sur la route contre les Chiefs. Et avec un carrière décent, je pense que ça aurait été également une victoire. Donc, il faut faire attention dans le cas des Pats. Oui, dans l'alignement, il y a moins de talent, il y a moins de profondeur, les receveurs. Je pense que c'est difficile. Je trouve que c'est dans les receveurs qui font le plus pitié à travers la ligue. Mais ça reste un club qui est très bien entraîné. Puis tant que Darth Vader va être là, les gars, il va avoir des bons plans de match défensifs qui vont se donner contre l'adversaire. Puis moi, la question que je pose, c'est admettons que les Pats, qui jouent quand même pas dans une division la plus forte, là, les Bills ont montré des signes de faiblesse. Les Dolphins vont quand même avoir une verte recrue comme corps arrière. Les Jets sont absolument atroces. Donc, c'est quand même quelques victoires que je pense que les Pats peuvent aller chercher. Est-ce que si les Pats obtiennent, admettons, une place en série, est-ce que c'est un club que tu veux affronter? Moi, honnêtement, j'aimerais ça qu'un autre club s'en charge parce que Bill Belichick en série, il a toujours des plans de match extraordinaires. Puis t'as quand même Cam Newton que s'il reprend vraiment, il est capable du meilleur et du pire, mais quand il joue bien, c'est vraiment tannant de l'avoir dans les pattes. Donc, on va voir ce que les Pats vont faire là, dans les prochaines semaines. Et c'est un club qui s'améliore souvent en cours d'année dans toutes les facettes du jeu. Donc, moi, je prône la patience avec les Pats.
OK, merci les gars. On fait une pause, puis après la pause, on va se demander si vous étiez à la place de Trevor Lawrence, est-ce que vous préféreriez jouer une autre année à Clemson ou aller avec les Jets?
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Here comes first down! Here comes first down! C'est Red Cashin.
OK, on est de retour à la zone payante. On est rendu à notre match et on va commencer avec un premier essai. Puis on va commencer ça avec un pick six parce que Stéphane veut nous parler du rôle des défensives. Ils sont en train tranquillement, Steph, de retrouver leur repère après des matchs qui finissent 48-43.
Ça commence fort, un pick six, par exemple.
Ouais, ça commence exactement comme les Steelers contre les Browns, là, je te dirais. Ça ressemble au début de match qu'on a vu avec un beau Minkah Fitzpatrick dans la gorge.
Puis en plus, en disant ça, tu fais mal à la fois à Jean et à moi.
Ben, écoute, d'une
un
pièce.
Un joueur des Dolphins, bien échangé par les Dolphins.
Mais écoute, tu sais, pour répondre à l'intro que tu faisais, c'est pas que l'attaque meurt en ce moment. Au contraire, là, on continue de voir des scores très élevés. Puis, écoute, on s'enligne encore pour une saison record au niveau de l'offensive. Mais ce que j'aime, c'est que tranquillement, on voit là, de plus en plus des défensives remonter à la surface. Puis je pense que ça va être le cas là, dans les prochaines semaines. On va en voir encore de plus en plus. À commencer par les Steelers, tu sais, ça a été vraiment une domination totale du côté de la défensive des Steelers face aux Browns. Baker Mayfield, qui a été victime de 5 sacks, il a été frappé 13 fois au total. Les Browns ont été limités à 76 verges au sol. Tu sais, rappelez-vous, là, depuis le début de l'année, comment c'est une machine au sol, les Browns de Cleveland. S'il y avait un élément dans leur jeu dont on était sûr, c'était bien celui-là. Puis les Steelers sont allés les bouffer tout rond. Puis les Steelers, cette année, chacun de leurs matchs, au moins 3 sacks, au moins une interception. Tu sais, c'est une défensive qui est très... est abonné au gros jeu, là, si on veut. Ça peut toujours faire mal, mais là, on sent qu'ils prennent un step de plus là, de semaine en semaine. Les Bucs de Tampa Bay, même chose. Tu regardes le travail qu'ils ont effectué contre l'offensive des Packers. Moi, j'étais rendu au point de me dire, je me demande si l'offensive des Packers n'est pas aussi redoutable que celle des Chiefs là, dans les dernières semaines. Ils donnaient des leçons de 30-40 points à tout le monde. Puis là, ils sont tenus à 10 points par les Bucs. Pour vous donner une idée, les Bucs, c'est pas nouveau de cette semaine. On parle beaucoup de Brady, de Gronkowski, des ajouts qu'il y a eu là-bas à l'attaque, mais on parle trop peu, encore une fois, de leur défensive. C'est la deuxième équipe dans les 20 dernières saisons qui, jusqu'en 6 matchs, là, qui ont au moins 10 revirements, au moins 20 sacs à leur actif, puis qui accordent moins de 70 verges au sol par match. Donc, ce que ça veut dire, cette statistique-là, c'est qu'ils sont bons dans toutes les facettes. Tu sais, les derniers à avoir fait ça, c'est les Steelers de 2008 qui ont remporté le Super Bowl, d'ailleurs. Donc, on va se calmer, on n'est pas rendu là avec les Bucs, mais c'est une défensive qui, de plus en plus, monte en haut, là, tu sais, qui se hisse parmi la crème, là. Tu sais, t'as d'autres équipes qui gagnent des matchs avec leur défensive aussi. On peut penser aux Bears. C'est bien beau, là, Nick Foles. C'est correct, il fait le nécessaire, disons-le comme ça.
Ouais, ou c'est bien pas beau, Nick Foles.
Mais tu sais, ça dépend des matchs, là. Il est capable d'être correct, il est capable d'être adéquat. Il y a des matchs qui jouent bien, d'autres matchs qui jouent vraiment pauvrement. Mais les Bears, match après match, la défensive se présente. Puis c'est grâce à eux que c'est l'une des surprises de la NFL. Tu sais, on parle d'une fiche de 5-1 au sommet de la NFC Nord. C'est surprenant devant les Packers là, quand on s'arrête à ça. C'est parce que leur défensive vient de donner 3 matchs de suite de moins de 20 points. deux des trois derniers matchs, moins de 200 verges par la passe accordée. Quatre virements lors des deux derniers matchs. Tu sais, tu vois une tangente là. Donc, tranquillement, la défensive était pas là au début de la saison. Là. Peu importe là, les équipes, les scores étaient insensés. Je pense que ça va nous donner du meilleur football. Tu sais, le spectacle est bon, c'est divertissant quand ça finit toujours 40 à 38. Mais n'empêche que quand la défensive reprend ses droits un peu, t'as du spectacle qui est plus équilibré, là, je te dirais, parce que les amateurs de football aiment aussi de bons duels défensifs, là, tant qu'il y a de gros jeux de part et d'autre. Donc, je pense qu'on va y gagner à moyen et long terme. Là. Donc, la défensive se replace, puis je vois pas ça comme une mauvaise nouvelle du tout.
Hey Jean, on va y aller avec toi pour le deuxième essai. On va prendre une petite course au centre, là, à la Frank Gore de deux verges. Parce qu'on parle des Jets.
C'est conservateur, ça, comme appel de jeu. Là.
Ouais, c'est peut-être dans le souhait de perdre le match, parce qu'on dirait que les Jets, c'est ça qu'ils veulent. Là. Ils veulent-tu finir dernier? Et qui vont repêcher s'ils finissent dernier, les Jets?
Ben écoute, la pierre angulaire du prochain repêchage, on peut tout de suite le mentionner, c'est la fierté de l'Université Clemson, c'est Trevor Lawrence. Lawrence, c'est, écoute, tout ce que tu désires d'un carrière de franchise, honnêtement, tu peux cocher chaque catégorie. Trevor Lawrence, il possède. Tu regardes son physique, c'est un 6 pieds 6, 220 livres, à peu près un gabarit parfait de la NFL. Tu regardes sa puissance de bras, il lance le ballon très fort, capable de le lancer très loin. Est-ce que la précision est là? Tout à fait. Peut-être au tout début, même l'an dernier, il y a eu peut-être un petit peu de difficulté avec le nombre d'interceptions. Cette année, il n'y en a pas encore lancé une présentement dans la NCAA. C'est un carrière qui, selon moi, était prêt à sa première année à faire le saut dans la NFL quand il avait battu Alabama au National Championship. Je pense qu'il avait démontré que c'était un carrière hors de l'ordinaire. Ben là, il est deux ans plus tard, il est plus mature. Il est assurément prêt. Je vois pas honnêtement comment ça pourrait être un flop, cette carrière-là. Puis souvent, je trouve qu'on prend les carrières trop tôt. Mais dans le cas de Lawrence, ce n'est pas nécessairement le cas. Je trouve que c'est le plus beau talent de carrière depuis Andrew Luck. C'est dans le même moule là, que Peyton Manning. C'est un carrière qui est très, très talentueux. Donc, est-ce que tu veux faire par exprès pour avoir un joueur comme ça? Moi, peut-être que je suis naïf, mais j'ose croire que sur le terrain, les joueurs se donnent toujours à 100%. Ça reste des professionnels. Maintenant, est-ce que le deuxième étage peut faire par exprès pour essayer de faire perdre des matchs? Ça, oui, ça, c'est différent. Dans le cas des Jets, on dirait qu'ils ont déjà abandonné depuis le début de la saison. Mais je tiens à dire qu'ils sont pas seuls, hein, Jean-Nic. Il y a quelques équipes qui sont dans la course. Trevor Lawrence, faut pas oublier les Jags, qui, après une victoire surprise à la première semaine, sont franchement mauvais avec 5 matchs consécutifs de plus de 30 points en défensive. Ça se voit qu'ils ont des trous partout. Eux aussi ont de la difficulté. Gardner Minshew, après un bon début, ça a été vraiment plus tranquille de la dernière semaine. Donc, ça prend juste une victoire des Jets, puis là, ça va être la course est relancée. Les Giants, l'équipe de Washington sont aussi dans la course. Donc, on va voir la suite des choses. Il y a la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas juste Trevor Lawrence qui est dominant cette saison. Il y a d'autres carrières qui font très bien. Et je pense qu'ils vont être des choix disponibles au repêchage. Je pense à Justin Fields à Ohio State, Zach Wilson à BYU qui fait vraiment bien depuis le début de la saison. Et peut-être également Sam Ehlinger, le carrière de l'Université Texas, un Longhorns. Donc, c'est un peu ça qui fait le tour de ce qui attend la cuvée de carrière pour le repêchage.
Ouais, les Jets ont vraiment l'air d'y aller pour la coupe parce qu'au moment où on enregistre ce podcast, Adam Gase est toujours l'entraîneur des Jets. Puis ben, je voyais aussi qu'il y avait des anciens joueurs de la NFL comme Roddy White qui conseillait à Trevor Lawrence de rester à Clemson plutôt qu'aller jouer pour les Jets.
Ouais, ça j'ai toujours de la difficulté avec ça. Tu sais, je trouve pas que c'est au joueur qui est repêché de choisir son équipe. C'est pas nécessairement comme ça que ça fonctionne dans le sport professionnel. Puis faut pas oublier aussi que les Jets, même si ça a l'air horrible présentement, ben la seule chose que, selon moi qui peut arriver, c'est qu'ils s'améliorent. Mais ça reste un gros marché. C'est New York là. C'est la grosse pomme. si Trevor Lawrence débarque à New York, puis les Jets l'entourent le moindrement, ça peut devenir la plus grande vedette que le marché new-yorkais a eu depuis fort longtemps.
Bon point. Puis, écoute, les Jets, pourquoi virer Adam Gase à ce point-ci? Tu brises pas une recette perdante. Là. Tu sais, ça va trop bien pour aller chercher Lawrence. Mais blague à part, tu sais, pour les équipes qui vont finir tout juste derrière, devant plutôt les Jets, là, on parlait de Washington, que ce soit les Giants, les Jaguars, peut-être Atlanta, qui sait. Jean, tu mentionnais des options intéressantes, puis il y en a plusieurs. Tu sais, on parle même de Trey Lance. L'échantillon est minime là, en frais de temps de jeu à North Dakota State, mais c'est un carrière qu'on mentionne aussi là, qui pourrait partir tôt. Il y a Kyle Trask en Floride qui continue de son ascension.
Oui, il joue bien, effectivement.
Tu sais, il y a plusieurs noms, là, encore une fois cette année, puis j'ai l'impression que ça va être le cas dans les prochaines années. On développe de plus en plus de bons jeunes carrières prêts à jouer dans les pros. C'est une différence majeure avec il y a quelques années à peine où tu en avais des fois un ou deux là, tu sais, qui sortaient vraiment avec un fort, fort potentiel. De plus en plus, je pense qu'on va voir cette tendance-là là, chez les jeunes carrières qui sortent de l'université.
Mais définitivement, Lawrence est au-dessus de sa classe. Il est spécial.
Ouais.
Il est vraiment spécial.
Carrément, oui.
Troisième essai, les gars, et on parle de trois équipes invaincues, les Seahawks, les Steelers et les Titans du Tennessee. Je vous demande, quelle équipe de ces trois-là restera invaincue en fin de semaine et qui devrait peut-être joindre le rang des équipes invaincues malgré le fait qu'ils ont déjà connu une défaite cette année?
Moi, j'ai le feeling que les Seahawks vont rester invaincus. Ils jouent contre les Cardinals. Mais tu sais, on pourra en reparler plus en détail dans les prédictions. Mais les trois équipes que tu viens de mentionner, oui, c'est trois équipes invaincues. Mais ils ont les trois des points d'interrogation. Puis c'est pas pour chercher les poux, là. Mais écoute, les Titans du côté défensif, à l'attaque, je me pose pas de questions, là. C'est franchement impressionnant. Autant par les airs que la course. Du côté défensif, ils ont donné déjà trois fois plus de 30 points. Tu sais, il y a quand même des questions à se poser à ce niveau-là. Est-ce que c'est une équipe de championnat? Les Seahawks, bon, c'est la magie de Russell Wilson. Ça opère presque toujours. Sauf que le 4 de leurs 5 victoires, c'est par une possession. La ligne est très, très mince. Puis rappelez-vous, l'an passé, c'était la même histoire. 10 de leurs 11 victoires par une possession. Ça démontre que des fois, ça peut basculer très rapidement. Pour l'instant, ils sont du bon côté du tableau indicateur, là, mais ça peut changer très vite. Donc, il y a des questions quand même. Là. C'est pas une équipe où on regarde ça et on se dit « Wow, je vois pas comment ils peuvent perdre cette année ». Les Steelers, bon, sont très convaincants là, jusqu'à maintenant, mais reste que quand tu regardes les adversaires, les victoires jusqu'à maintenant sont survenues contre oui, les Browns la semaine passée, c'était peut-être la meilleure équipe qu'ils ont battue, mais sinon, les Giants, les Broncos, les Texans, les Eagles, toutes des équipes qui connaissent quand même leur part de difficulté. Donc, le test contre les Titans va être particulièrement pertinent là, en fin de semaine. Bien hâte de les voir à l'œuvre contre une équipe qui peut faire des dommages de plusieurs façons. Mais si tu me dis, dans ces équipes-là, qui est la meilleure, qui a le plus de chances de se rendre loin, je pense que les trois vont être en série là, à la fin de l'année. Mais pour moi, l'équipe à battre demeure les Chiefs. Ils jouent de manière sous-estimée en défensive, je continue de le croire. Leur attaque est toujours aussi redoutable. Bon, il y a eu un faux pas face aux Raiders. Mais si tu me donnes le choix, là, c'est même pas dans les trois équipes invaincues. Moi, je vais piger dans la cour des Chiefs.
Ben écoute, c'est très sage de ta part. Par contre, je tiens à souligner que depuis le début du podcast, je dis que l'équipe la plus dangereuse pour les Chiefs, c'est les Steelers de Pittsburgh. Et j'en suis encore convaincu.
Tu penses qu'ils passent les Ravens? Ça, t'as pas changé d'avis là, dans la division?
Non, moi, j'ai pas changé d'avis. Je pense que j'ai les Steelers qui vont finir premier. Mais je pense que c'est un club qui est dangereux pour les Chiefs de Kansas City, de la façon qu'ils sont construits. Mais pour répondre à la question, moi, j'ai pas la même réponse. Moi, j'ai les Titans vont peut-être rester l'équipe la plus invaincue le plus longtemps. J'aime comment cette équipe-là carbure présentement. Je trouve qu'ils ont démontrent plus de caractère que dans le passé. C'est un club qui est extrêmement physique sur les deux côtés de la ligne, autant la ligne à l'attaque que la ligne défensive. Ça va être un match pour homme, d'ailleurs, le match entre les Steelers et les Titans, parce qu'on va être branché assez rapidement quelle équipe va être invaincue dans ces deux formations, entre ces deux formations-là. Puis j'aime beaucoup l'équilibre à l'attaque des Titans. Écoute, ça enlève beaucoup de pression à Tannehill qui joue quasiment comme un joueur qui est candidat au trophée du joueur le plus utile là, présentement. Il faut le considérer, selon moi. C'est peut-être un peu tôt, là, mais il joue du sacré bon football. Évidemment, tu as une ligne à l'attaque physique. Tu as un monstre derrière qui s'appelle Derrick Henry qui est vraiment pas le fun à plaquer, surtout quand il descend au deuxième niveau. Puis là, tu as des petits demi-défensifs qui se demandent quoi faire contre cette espèce de bête-là qui arrive à pleine vitesse. On parle d'un porteur de ballon de 6'3", 245 livres, et qui est quand même, on l'a vu contre en fin de semaine, contre les Texans, qui est capable aussi de partir pour de longues courses. Il possède la vitesse. Donc, moi, j'aime beaucoup l'attaque des Titans. Ils ont des bons receveurs. Brown, entre autres, est étincelant présentement. Donc, et un bon ailier rapproché de Jonnu Smith aussi est explosif. Donc, moi, c'est l'attaque que je trouve la plus équilibrée des trois. Défensivement, il y a des problèmes, je trouve, un petit peu dans la tertiaire des Titans, mais écoute, ils continuent de gagner, puis on verra si la recette va suivre en fin de semaine contre les Steelers. Et les Seahawks, messieurs, je voulais juste tenir... Je tiens à le mentionner, sont invaincus avec la pire défensive de la NFL présentement au niveau des verges accordées. Ils donnent, tenez-vous bien, 471 verges par match.
Wow!
Et ils sont invaincus.
Écoute, si tu m'avais forcé à dire c'est qui, vite, la pire défensive de la Ligue, je t'aurais dit de facto les Cowboys, donc tu me surprends quand même avec la stat.
Ouais, 471 verges de qui donnent par match, c'est astronomique. Écoute, l'équipe la plus proche, c'est 432 par la suite, c'est les Falcons. Donc, c'est ça donne une idée comment Russell Wilson, ça, je trouve que ça lui donne encore plus de munitions quand on parle du trophée du joueur le plus utile. Donc, c'est mon point de vue, Jean-Nic.
Ben, merci les gars, puis on va avoir l'occasion d'en discuter aussi dans les prédictions. Restez là. Et après la pause, nous, on va passer au quatrième essai. On va décider si on botte ou si on y va. Restez là. Alors, on est de retour. Quatrième essai. C'est le match est serré. Fait que 4 et 12, on y va-tu quand même? On est à ligne de
4. Wow! On y va tout le temps, Jean-Nic.
Ah, je sais. On n'a pas le choix. On est à l'attaque.
Okay. C'est l'attitude dans la zone payante, après tout.
Exact.
T'as raison, mais on n'est pas encore dans la zone payante. On est au 40, mais on s'approche. OK. On va commencer par un gars qui, d'après moi, t'es confiant quand tu lui donnes le ballon au quatrième essai. C'est Lamar Jackson. Il y a des crampes au cerveau ces temps-ci. C'est comme si il n'y avait pas un aussi bon début de saison qu'on s'attendait de lui. Est-ce que vous sentez qu'il est épargné par les médias et par les fans en ce moment, Lamar Jackson?
Ben, épargné, c'est un grand mot, tu sais. C'est-à-dire qu'il joue pas le football qu'il jouait l'an passé. Ça signifie pas qu'il joue pas qu'il n'y a pas un niveau de mauvaise qualité, tu sais. En ce moment, il y a une nouvelle approche, on dirait, chez les Ravens. On tente de plus en plus de diversifier l'attaque. Tu sais, je pense qu'on a vu du côté des Ravens les limites de la formule de l'attaque au sol à outrance. Là, tu sais, dans les séries depuis 2 ans, ça a été plus difficile. Faut que tu sois moins unidimensionnel. Puis c'est un élément qu'on essaie, je pense, de plus en plus d'incorporer dans le jeu de Lamar Jackson. Tu sais, à ses 2 derniers matchs, j'ai pas la stat devant moi, mais je pense que c'est 37 et 27 passes tentées. C'est pas toujours, là. C'est même très rare qu'on voit ça dans le cas de Lamar. Puis, le résultat, c'est qu'il a complété moins de 60% de ses passes dans ces occasions-là. Comme je disais, c'est pas nécessairement mauvais, là. Il faut pas s'alarmer avec le jeu de Lamar Jackson. Au contraire, il continue de sortir des courses à l'emporte-pièce à tout moment. Il peut revirer à n'importe quel match sur un 10-10. Mais il y a une approche qui est quelque peu différente là, cette année du côté des Ravens. C'est normal là, qu'il y ait peut-être une petite période d'adaptation. Puis, quand le club gagne, de toute façon, ça démontre que Lamar Jackson n'est pas à blâmer là, pour rien ou quoi que ce soit. Si c'est une série de défaites puis que Lamar Jackson joue très mal, puis que là, on n'en parle pas, je pourrais comprendre qu'on dise qu'il est épargné. Mais là, à ce moment-ci, il n'y a pas à être épargné parce que c'est pas un problème là, que les Ravens vivent. Ils ont quand même une fiche gagnante. Tout va pour le mieux, une seule défaite. Donc, non, il n'est pas épargné. Là. C'est juste que Il y a des petits problèmes qui pointent tranquillement à la surface, mais pour l'instant, il n'y a pas lieu là, de s'inquiéter outre mesure, je pense.
Je suis un peu dans la même veine. Je pense que Lamar Jackson joue un peu moins bien que l'an dernier, mais quand tu regardes les statistiques, il est vraiment pas loin de ses stats de l'an passé. Là. Où ce que je rappelle, il a été quand même le joueur le plus utile de la ligue. Son pourcentage de passes complétées a passé de 66 à 63%. C'est pas une baisse catastrophique. Au niveau des interceptions, son ratio, je pense, c'est 10 passes de toucher, 2 interceptions. Il a fini l'an passé à 36-6. Donc, si tu fais des projections un petit peu, ça risque de ressembler à ce qu'il y avait un peu l'an passé comme ratio. Donc, écoute, les stats font... Au niveau des purement statistiques, ça ressemble quand même à ce qu'il faisait, mais je pense que pour l'avoir vu un petit peu sur le terrain, il est pas aussi époustouflant que l'an dernier. Mais je pense quand même que les Ravens sont en train d'essayer de préparer un carrière qui, si advenant le fait que les Ravens tirent à l'arrière, est-ce qu'ils vont être en mesure de revenir par la passe? Je pense vraiment que c'est ça que les Ravens essaient de préparer avec Lamar Jackson. Parce qu'on le sait qu'il est capable de courir, ça c'est d'une évidence. Donc, est-ce qu'il est capable de s'améliorer assez pour remporter un match seulement avec son bras? C'est ça la question qu'il faut se poser. Je pense que c'est la même question que les Ravens se posent présentement, puis essayent de tout simplement régler ce problème-là.
OK, puis parlant de corps arrière, il y en a un autre là, qui, lui, fait un petit peu plus face aux critiques, c'est Baker Mayfield. C'est un jeune aussi, il a été repêché dans les mêmes années que Lamar Jackson. Est-ce que lui, il va rebondir cette semaine contre Cincinnati?
Cette semaine, oui, mais moi, je commence vraiment à douter, je dirais, de son talent global. Est-ce que est-ce qu'il mérite son premier rang? Il a été choisi premier de tout le repêchage de son année, ce qui était 2018, si je me trompe pas.
Ouais.
Donc, 2018, c'était le premier choix au repêchage de la NFL. Est-ce qu'il joue présentement comme son rang l'indique? La réponse, c'est non. Pour moi, quand t'es repêché aussi haut, faut que tu démontres que t'es spécial. Baker Mayfield m'a pas montré qu'il est spécial comme carrière. Il m'a montré que c'est un bon carrière de la NFL. Il est capable de jouer dans cette ligue-là. Il est capable d'être bon, mais il est capable aussi d'être mauvais. Je pense qu'il va continuer à s'améliorer tranquillement, mais c'est ça que je vois quand je vois de Baker Mayfield. Je vois pas un gars qui répond aux attentes qui étaient très hautes placées en lui. Ceci étant dit, j'aimerais aussi également voir des meilleurs signes d'amélioration dans son jeu, spécialement au niveau des lectures. Dans ses lectures de jeu, je trouve que trop souvent, il regarde seulement sa première option. Puis c'est très, très rare qu'il passe à sa deuxième et à sa troisième dans les dépanneurs, ce qu'on appelle les check-downs souvent. Ça arrive à peu près jamais. Puis quand je regarde les matchs des Browns, c'est souvent ce qui est disponible. Les défensifs sont pas connes. Ils savent que quand ils jouent contre Baker Mayfield, faut arrêter les zones intermédiaires, la zone profonde, puis laisser ce qui est proche de lui parce qu'il ne l'utilise pas. Mais quand il va commencer à utiliser sa deuxième, sa troisième lecture, là, il va devenir vraiment plus dangereux comme carrière.
Moi, dans le cas de Mayfield, tu sais, c'est des éléments de base de son jeu qui m'inquiètent en ce moment. Tu sais, sa présence dans la pochette. On parlait des fantômes de Sam Darnold depuis l'an dernier, là, mais Baker a tendance à en voir aussi. Il vient les pieds fous là, très rapidement. Il sort de la pochette, c'est ça, très rapidement. Alors que des fois, le jeu est simplement de rester là, de progresser verticalement dans ta pochette, puis d'attaquer peut-être le milieu du terrain. C'est pas nécessairement ce qu'on voit. Puis, Jean, tu disais, je pense qu'il va continuer de s'améliorer tranquillement, pas vite. Je le souhaite, honnêtement. On souhaite tous là, que les Browns se sortent de leur marasme. Mais j'ai peur que Mayfield, on assiste déjà à son plafond. C'est ce que je me demande. Parce que quand tu regardes tout ce qu'on lui a donné depuis 2 ans, il y a maintenant un groupe de receveurs qui est vraiment incroyable. Il y a un champ arrière extraordinaire. Même Nick Chubb est blessé, là, mais quand même, quand Nick Chubb est là avec Kareem Hunt, tu peux pas vraiment demander mieux comme combinaison. Tu as une ligne à l'attaque qui est vraiment plus performante que par le passé. Là. Alors, jusqu'à quel point qu'il faut que tu investisses autour de lui pour lui permettre de s'améliorer. C'est ça que je me demande à un moment donné, quand je parle de plafond, est-ce qu'on a déjà assisté au meilleur de Baker Mayfield? C'est ça qui m'inquiète beaucoup là, dans son cas actuellement.
C'est un bon point, c'est à refaire. C'est sûr que quand tu regardes les carrières qui ont été repêchés cette année-là, il y en a pas tant qui... Josh Rosen, Sam Darnold, il y a Josh Allen puis Lamar Jackson qui tirent leur épingle du jeu, clairement.
Ce qui est drôle, c'est qu'on parlait à ce moment-là, moi je me rappelle avant le repêchage, dans les analyses et tout, là, c'était une cuvée exceptionnelle, alors que l'année d'avant, 2017, il y avait des gros doutes, ouais... De Sean Watson, on sait pas comment son jeu va se transférer chez les pros. Patrick Mahomes, c'est un gunslinger, mais on sait pas comment ça va virer. Ça nous prouve à quel point le repêchage est une science inexacte, puis qu'à chaque année, ben, on peut bien essayer de prétendre qu'on sait ce qui va se passer, là, mais c'est vraiment, vraiment flou, là, en termes de projection, puis de ce qui arrive en réalité.
Hey, les gars, vous êtes deux spécialistes, là, j'ai vraiment besoin de vous autres, là. J'ai une question. Quelle est la pire et quelle est la meilleure équipe de la NFC East?
Ouf! Question redoutable, Jean-Nic. Ça, c'est pas facile à répondre, ça, parce que la pire et la moins pire, parce qu'on dira pas la meilleure, la pire et la moins pire, c'est très, très mince, là, la ligne. Moi, j'ai quand même tendance à dire que les Cowboys devraient, logiquement, terminer au sommet. J'aime les Eagles quand même, mais les Eagles sont tellement troués de blessures depuis 2-3 ans, puis cette année, c'est pire que pire. Ça n'arrête pas de tomber comme des mouches. Je vois pas comment ils vont pouvoir se remettre de ça, là. Donc j'ai comme l'impression que les Cowboys vont gagner cette division-là, mais un peu par défaut, là. Je m'attends pas à une fiche qui soit très reluisante. Pour ce qui est de la pire, écoute, j'hésite entre les deux autres. J'y vais avec Washington pour ma part parce qu'il n'y a tout simplement pas de solution à l'attaque. Que tu reviennes avec Dwayne Haskins, que tu continues avec Kyle Allen, que tu donnes une vraie opportunité à Alex Smith, je sais pas vraiment qui peut sortir l'équipe du bourbier en ce moment. Je le vois pas trop. Il n'y a pas de jeu au sol. Il n'y a pas grand-chose qui fonctionne. La ligne à l'attaque est pas bonne. En défensive, bon, il y a des aspects de jeu qui sont prometteurs. Je pense à la ligne défensive, entre autres, le front, là, qui a quand même des munitions très intéressantes. Mais c'est pas une équipe qui a l'air d'être prête à se sortir du trou, là, vraiment pas. Alors que du côté des Giants, ben, je vois au moins quelques signes encourageants du côté de la défensive, là, du moins. Donc, j'y vais avec Washington, les 100 noms, là, pour moi, qui vont terminer dernier. Mais ça va être une lutte très, très chaudement disputée pour être le plus mauvais là, entre eux et les Giants.
Bon, ben, je vais ajouter une autre question, Jean. Quelle est la pire et la meilleure et à quelle fiche va se gagner cette division-là?
Oh!
Ça ouvre, là, tu rajoutes du piment
de complexité.
Première des choses, écoute, la NFC East, je me rappelle, ça a déjà été la fierté de la NFL là, pendant longtemps. Je trouve ça un peu triste de voir cette division-là être aussi mauvaise présentement. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on peut pas dire la meilleure équipe de cette division-là, c'est l'équipe la moins pire, qu'il faut dire. Et pour moi, la moins pire, c'est les Eagles, simplement parce qu'ils ont Carson Wentz, que présentement, quand je regarde les carrières qui sont là, c'est le meilleur carrière de cette division-là. Est-ce qu'il est capable de faire ce qu'il a fait l'an dernier, amener les Eagles en série avec pas de club, pas de receveur? Ben écoute, il l'a fait une fois, pourquoi pas deux? Donc moi, je mets mon argent sur les Eagles. L'équipe, la moins bonne équipe des quatre, comme Stéphane, c'est Washington pour moi, pour les raisons qu'il a mentionnées. À l'attaque, à part McLaurin, sont vraiment, vraiment mauvais. C'est l'équipe de Washington. Je préfère quand même Washington en défensive que les Giants, mais écoute, ils sont tellement horribles à l'attaque. Écoute, c'est Washington pour moi.
Et combien les Eagles auront besoin de victoires pour gagner cette division-là?
8. Ça va se gagner à 500 pour la première fois depuis un petit bout de temps là, dans la NFL. 8-8, ça devrait être
suffisant. Même qu'ils ont déjà un match nul, eux. Là, fait que,
ouais, ben d'abord, dans leur cas, ça finirait peut-être 7-8-1. Là.
Incroyable. Hey, on poursuit les gars. Est-ce que, parlant d'incroyable puis parlant de division qui va pas très bien, est-ce que Mike Zimmer est sur le hot seat à Minnesota?
Les choses vont vraiment pas bien là, pour les Vikings, puis spécialement pour leur carrière. Kirk Cousins qui écoute, accumule les interceptions plus vite que, je dirais, ma blonde les sacoche simplement. Là, c'est, ça va vraiment, vraiment rapidement. dans le cas de Zimmer, moi, je pense qu'il est pas sur le hot seat. Je pense qu'il y a son passé va faire en sorte qu'il va avoir une saison de répit. Mais par contre, l'an prochain, si ça va pas au goût des dirigeants et des proprios des Mauves, ben il va se faire montrer, je pense, la sortie. Mais pour cette année, moi, je pense qu'il est safe. Mais écoute, ça reste la NFL. Les choses changent rapidement.
Ouais, ben ça dépend. Puis comme il y a un point que j'amenais dans une autre émission, aussi bien le répéter, là, mais il y a un détail technique qui est le fait que Mike Zimmer a eu une extension l'été passé. Ça ferait spécial de le mettre dehors tout de suite, ouais, même pas un an plus tard. Mais écoute, on a déjà vu des cas comme ça, là, ça arrive. Si la déconfiture se poursuit contre des très mauvaises équipes, on a vu là, contre Atlanta la semaine passée, c'était vraiment pas chic. Peut-être que ça va forcer les propriétaires à ravaler leur chèque et à dire « Écoute, on n'a pas le choix, il faut aller dans une autre direction. » Mais moi, je pense comme Jean qu'il y a une autre saison là, pour se prouver. C'était la grande vadrouille là, du côté de la défensive cette année. On a reparti à peu près tout à neuf. Ça demande certainement une phase d'ajustement. Moi, je m'attendais pas à si pire que ça. Personnellement, je voyais Minnesota tomber de défensive de tête à défensive de milieu de peloton. Là, ils sont clairement en queue de peloton. Là, c'est parmi les pires de la Ligue. 192 points accordés déjà. C'est le deuxième plus haut total de points concédés. Donc, écoute, il va s'en sortir fort probablement à cause de son contrat. Mais ça va être une situation à surveiller de près l'an prochain.
OK, les gars, on va retourner à notre chronique déprimée, pas déprimée. On sait que les magasins de sacoche près de chez Jean sont pas déprimés, mais on va prendre Ezekiel Elliott comme premier témoin cette semaine. Est-ce que lui, il accumule les fumbles comme ta blonde accumule les sacoches?
Là? On va essayer de laisser ma blonde de côté 30 secondes, les gars. Là. Écoute, on va dire qu'il est pas déprimé, moi, dans mon cas. Je pense qu'il a soutiré assez d'argent dans son compte en banque à Jerry Jones lors de son dernier contrat que ça peut peut-être le consoler pour l'instant de quelques semaines, mais une chose est sûre, c'est qu'il devra se ressaisir rapidement. C'est pas un porteur de ballon qui nous a démontré dans le passé qu'il y avait des problèmes à garder le ballon entre ses mains. À Ohio State aussi, il était très, très solide à ce niveau-là. Donc, je m'attends à ce qu'il se ressaisisse. Il est pas heureux de la situation, évidemment, avec les Cowboys, mais je pense pas qu'il est encore déprimé.
Peut-être pas déprimé pour l'instant, mais pas loin, parce que c'est sûr, je suis d'accord avec Jean, ça n'a jamais été un problème dans sa carrière, que ce soit universitaire ou pro. Sauf que là, c'en est un, puis un vrai. On parle de 4 échappés perdus, là, vraiment. Pas juste échapper le ballon, puis ah, les Cowboys le reprennent. Là. 4 échappés perdus dans le cas d'Eliott à leur premier match. Là, c'est vraiment un facteur très négatif. Les gens peuvent bien blâmer Andy Dalton pour la débauche, la débâcle, c'est-à-dire face aux Cardinals. Mais un des responsables les plus importants de cette défaite-là, c'est Elliott avec ses 2 fumbles. Donc, faut vraiment qu'il se reconcentre sur cet aspect-là de son jeu. C'est important. Puis, malheureusement, là, pour les Cowboys, la ligne à l'attaque n'est plus ce qu'elle était. Hein. Ça aussi, là, ça joue dans la tête d'Elliott, certainement. Le centre Travis Frederick qui est parti, les 2 bloqueurs partants, Lyle Collins et Tyron Smith qui sont finis pour l'année, Zach Martin, le garde étoile, qui a été victime d'une blessure dans le match face aux Cards, c'est plus du tout l'institution que c'était là, la ligne à l'attaque des Cowboys. Donc, Elliott voit du monde beaucoup plus rapidement qui arrive sur lui, qui tente de y enlever le ballon. C'est un autre défi complètement. Il va falloir qu'il se ressaisisse puis vite.
Un autre running back qui voit qui entend le souffle dans son dos, c'est Clyde Edwards-Helaire là, qui a vu cette semaine les Chiefs additionner Le'Veon Bell sur leur roster. Est-ce que lui, il doit être déprimé ou pas déprimé?
Moi, je pense qu'il est aucunement déprimé. Ça reste une recrue qui est présentement avec une formation qui a une bonne chance d'aller au Super Bowl. Il est partant pour cette équipe-là. Et en plus, il a répondu de la meilleure façon qu'il pouvait le faire, c'est-à-dire en alignant plus de 150 verges contre les Bills, en sachant que Le'Veon Bell s'en venait dans sa dans sa formation. C'est sûr qu'il va avoir moins de terrain. Surtout, moi, je pense, dans les situations de court gain, ça va être plus M. Bell qui va se faire appeler à la plaque. Mais ceci étant dit, moi, je pense qu'il il file le parfait bonheur, Clyde Edwards-Heller.
En fait, c'est pas Clyde Edwards-Heller qui est déprimé, c'est ses propriétaires fantasy des deux joueurs. Je pense que c'est là que ça fait le plus mal. Parce que comme tu le disais, Jean, il y en a un qui va voler des touches à l'autre près de la zone des buts. Bell va enlever quelques réceptions de passe aussi à Heller. Donc, c'est un cauchemar fantasy, ça, mais c'est pas le point le plus important. Le vrai football réside surtout. Et dans le cas de Clyde Edwards-Helaire, il n'y a pas de danger de perdre son poste. Là, je pense qu'il a démontré jusqu'à maintenant qu'il pouvait être un porteur de ballon partant et régulier puis constant dans la NFL. Donc, il va conserver là, la majorité du travail dans le champ arrière. Mais reste que quand ça commence à se gruger à gauche, à droite, là, une petite portée par là, une petite réception par là, c'est bien fatigant pour les amateurs de fantasy football.
Est-ce que Juju Smith-Schuster devrait être déprimé ou pas déprimé?
Non, moi, cette semaine, je tiens les joueurs loin des comprimés. Pour Juju, c'est la même chose. Il n'est pas encore déprimé. Son club est invaincu. Oui, il est utilisé beaucoup plus sur ses qualités pour bloquer présentement, mais ça reste que c'est un sapré bon joueur de football. J'ose croire que les Steelers vont l'inclure un peu plus dans les plans de match offensifs. J'imagine que ça s'en vient, puis je pense qu'il y a quand même trop de talent pour rester avec des réceptions, un nombre de réceptions aussi bas. Donc, moi, je prends un peu de patience dans le cas de Juju.
Ouais, même chose ici. Il n'y a pas de raison d'être déprimé, surtout quand les choses collectivement pour ton équipe vont aussi bien. C'est ce que j'ai hâte de voir dans son cas. Tu sais, c'est pas un receveur qui a fait des vagues jusqu'à maintenant, comme on en voit tellement à travers la NFL. Là, je veux le ballon, je veux le ballon, je veux le ballon. Puis si ça marche pas, je fais une crisette sur le long des lignes de côté. Jusqu'à maintenant, c'est pas ce qu'on a vu de Smith-Schuster. Est-ce que c'est le personnage qui va éclore tôt ou tard? Je penserais pas. Mais c'est quand même l'élément qu'il faut surveiller, là, parce que c'est déjà arrivé dans le passé, notamment chez les Steelers, là, avec Antonio Brown, toutes sortes de crises pour toutes sortes de raisons. Jamais parce qu'il n'a pas assez eu le ballon, là, par contre. Mais non, j'ai l'impression que un talent comme Smith-Schuster, tu peux pas faire autrement à un moment donné que de l'alimenter. Puis c'est peut-être un petit passage à vide qui devrait se corriger là, dans les prochaines semaines.
Avec toutes ces blessures, là, on a encore besoin d'aide pour notre fantasy. Les gars, qui vous nous suggérez d'aller chercher comme joueurs? Tu as peut-être mettre sur le banc ou peut-être même les faire jouer?
Ben, Toua, messieurs, oui, voyons. Oui. Si vous l'avez pas, Toua, allez le chercher tout de suite. Ça presse dans les ligues en format dynastie où on garde nos joueurs d'année en année. Je suis convaincu que c'est déjà fait, là, c'est pas la question. Mais ceux qui jouent plus à la petite semaine, puis qui attendait, puis qui se disait, ben ça va être quand, je suis mieux de le laisser aller, tout ça. Là, c'est le temps, go, aller le chercher sans hésitation. Sinon, écoute, c'est rare qu'on va faire ça dans zone payante, là, je m'excuse à l'avance, un joueur des Jets qui pourrait peut-être donner quelques points dans les prochaines semaines, on parle si vous êtes vraiment mal pris, on s'entend. Hein? LaMichael Perrine, un porteur de ballon recrue, un choix de quatrième ronde, on sait, Bell est parti. Frank Gore essaie de faire de son mieux avec une équipe carrément minable. Puis il arrive plus. Il semble malheureusement au bout du rouleau. Ça fait de la peine de dire ça d'un vétéran que je vénère. Sincèrement, Frank Gore, là, c'est un demi-dieu. Mais il semble que là, le mur du temps l'a enfin frappé. Est-ce qu'on va donner plus d'opportunités à Perrine dans les prochaines semaines? C'est ce que Adam Gase semblait dire, donc peut-être que ça arrivera pas puisqu'il le dit. Mais en tout cas, voyez ça comme une munition là dans votre petite poche arrière, mais tu sais, c'est vraiment pas pour aller gagner un championnat, mais comme, OK, je surveille une situation du coin de l'œil, c'est plus comme ça que je le vois.
De mon côté, je me tourne vers les Niners de San Francisco, la blessure à Raheem Mostert, le porteur de ballon. Donc, je vous conseille d'aller chercher Jamichael Hasty, le porteur de ballon, l'ancien des Baylor, de l'Université Baylor. C'est un gars qui est explosif, puis la semaine passée, le monde pensait que c'était McKinnon qui aurait le plus de portée, mais c'est Hasty qui en a eu le plus. Au pire, selon moi, ils vont peut-être splitter le ballon 50-50, donc ça serait une bonne acquisition pour votre équipe fantasy.
Merci les gars. Après la pause, c'est l'heure de vos prédictions et on va entre autres s'intéresser au match des Steelers contre les Titans.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
I got news for you, buddy. We're going to win the game, I guarantee it.
On est de retour à la zone payante en compagnie de Stéphane Cadorette et Jean Carrier qui vont nous faire leurs prédictions pour cette semaine. Ça a l'air de quoi jusqu'à maintenant vos prédictions, les gars?
Ben, c'est très serré. Je mène par une prédiction. La semaine dernière, Steph est 9-14. De mon côté, je suis un très ordinaire 8-14. Donc, c'est 60-91 de mon côté et 59-91 du côté de Stéphane.
Ouh, OK. Est-ce qu'on commence en force cette semaine avec le match des Giants et des Eagles, le retour du Thursday Night Football?
Commencer ça en force, c'est un bien grand terme, mais bon, on va commencer tout simplement. Des blessures qu'on doit signaler là, du côté des Eagles, le porteur de ballon Miles Sanders qui devrait pas jouer, même chose Zach Ertz, l'ailier rapproché qui va être absent, Malik Jackson le plaqueur. Donc tantôt quand je vous parlais d'avalanche de blessures, c'est pas des jokes là, c'est vraiment à chaque semaine ils s'en rajoutent sur le tas. Néanmoins, les Giants sont tellement mauvais, tellement pitoyables à l'attaque que je pense que Carson Wentz va amener son équipe dans la zone des buts juste assez pour aller chercher une victoire là, probablement durement acquise, mais on va y aller avec les Eagles malgré tout, ce qui en dit très long sur ce que je pense des Giants.
Je vois le même raisonnement. Je pense que Carson Wentz va en faire assez avec son équipe décimée. Puis honnêtement, les Eagles, depuis 3 ans, là, tu sais, je comprends que c'est next man up, puis OK, il y a un blessé, c'est en a un autre qui y va, mais ils sont vraiment pas chanceux, là, les Eagles. Ils perdent tout leur arsenal. Donc, victoire quand même des Eagles face aux Giants.
Un match à intra-division, un autre, les Bengals contre les Browns. On disait que Mayfield allait rebondir. Est-ce que, Jean, tu y vas jusqu'au bout?
Ouais, jusqu'au bout, mais pas avec grande conviction. Le premier match entre les deux équipes avait quand même été relativement serré. Je pense que les Browns vont s'imposer, mais ça va être difficile. Puis c'est plus que j'ai confiance en la défensive poreuse des Bengals. Donc même s'ils prennent les devants, on sait que les Browns peuvent revenir.
Je pense que Mayfield est béni, honnêtement, après un match difficile comme il y a eu la semaine passée, de tomber contre les Bengals, qui sont compétitifs hein, cette année. Leur fiche de 1-4-1, c'est pas comme par les années passées. On sent qu'ils sont dans chaque match. Ils donnent une bataille à leurs adversaires. Ça, il faut le souligner, parce que des fois, les fiches, faut ouais, en prendre et en laisser.
Ils ont juste eu contre les Ravens, qui a eu une absence, mais le reste est très serré.
T'sais, c'est ça, ils se battent. Donc, je pense que ça va être encore le cas cette semaine. La grosse différence, j'ai l'impression que ça va être Myles Garrett dans ce match-là. T'sais, la ligne à l'attaque des Bengals est tellement ridicule. Là. Honnêtement, ça fait peur. Quand tu vois Joe Burrow derrière cette ligne-là, tu te demandes est-ce qu'il va finir l'année? Est-ce que sa carrière va être écourtée? Est-ce que son espérance de vie va être écourtée, rendue là? Il va falloir corriger ça au plus sacrant. Puis Myles Garrett joue de l'excellent football cette saison. Il a été un peu plus absent, disons, contre les Steelers. Je pense qu'il y a un sac, mais quand même, c'est pas le gars qui a appliqué là, la pression jeu après jeu. J'ai le feeling qu'il va se ressaisir et que ça va être un pique-nique contre la ligne à l'attaque des Bengals.
Dallas contre Washington, à Washington.
Hey, tu nous amènes dans des grands crus, Jean-Nic. Encore la bonne vieille division NFC East. Écoute, puisqu'il faut choisir un gagnant, là, j'imagine que c'est le but de l'exercice. Je vais y aller avec les Cowboys. Andy Dalton qui devrait se ressaisir. J'aime par contre le front défensif de Washington. Donc, c'est dangereux pour la ligne à l'attaque éclopée des Cowboys. Écoute, il y a trop d'armes du côté de Dallas pour que ça en reste là. C'est impossible. Ils ont 3 excellents receveurs, un bon jeu au sol. Dalton, qui est pas un partant de qualité extraordinaire, mais qui est un réserviste de luxe là en ce moment pour les Cowboys. J'y vais avec eux tout simplement parce que je fais aucunement confiance à l'attaque des sans-noms.
Écoute, je vois qu'il y a une petite surprise. Moi, j'ai l'équipe de Washington dans ce match-là. Oui, les Cowboys ont plus de talent, mais ils ont démontré depuis le début de la saison qui ont une grande qualité, mais c'est entre parenthèses évidemment que j'utilise le mot qualité, c'est qu'ils se tirent dans le pied constamment et je ne vois pas pourquoi ce serait pas la même chose en fin de semaine. Je pense que les Cowboys vont trouver une façon de donner le match à Washington, soit par revirement, par un mauvais coaching, qui d'ailleurs est ressorti par les propres joueurs des Cowboys, donc ça sent pas bon cette histoire-là. Victoire de Washington.
Les Lions contre les Falcons en fin de semaine.
Je prends les Falcons dans ce match-là. Première des choses, il va avoir beaucoup, beaucoup de points marqués dans ce match-là. Définitivement, prendre le over, j'ai l'impression que ça va être un festival offensif. Puis, ma raison pour prendre les Falcons, c'est simple, c'est que c'est un match que les Lions doivent gagner absolument. Et dans le passé, à chaque fois que les Lions devaient gagner, ben, ça a été le contraire. Donc, c'est pour ça que je prends les Falcons.
Hey, là, tu frappes dans le mille, Jean. Honnêtement, écoute, tu t'apprécieras peut-être pas, mais c'est pas grave. Je m'apprêtais à prendre les Lions, puis pour la raison que tu as donnée, quand on les attend, quand il y a un match qu'ils peuvent pas échapper, quand on commence à se dire ah, « ils sont 2 et 3, ils s'en vont vers 500, ça va être une équipe à considérer », pouf, ils font patate. Écoute, je me rallie à ta savante analyse, puis j'y vais avec les Falcons, moi aussi, j'ai pas le choix.
Bien joué. Il y a juste les fous qui changent pas d'idée, Steph.
Exactement.
Puis les Panthers vont retrouver les Drew Brees et Michael Thomas, un duo qui a fait des dommages en fin de semaine. Est-ce que ça va être suffisant pour la Nouvelle-Orléans?
Moi, j'ai l'impression que oui, parce que Michael Thomas, bon, il y a eu des petits problèmes à l'interne. On le sait, une bataille lors de l'entraînement avec le maraudeur de deuxième année, Chauncey Gardner-Johnson. Certains diront que c'est des choses qui arrivent, mais semble-t-il que Michael Thomas, il y a de plus en plus la grosse tête à Nouvelle-Orléans. C'est ce que des journalistes qui couvrent l'équipe au quotidien semblent mentionner de plus en plus. J'ai l'impression quand même que ça va s'être réglé à l'interne, qu'on va avoir parlé entre Sean Payton, Breeze, Thomas, que les grands sages vont s'être un peu remis sur la même longueur d'onde. Puis je m'étonnerais pas même que Michael Thomas sorte son typique genre de match dominant là, à la 11 attrapés, 145 verges, 2 touchés. Ce serait pas surprenant du tout. La défensive des Panthers qui se bat là avec vraiment une férocité qui l'honore là, cette année. Moi, je m'attendais pas du tout à ces résultats-là. Mais de là à lutter contre un canon comme Michael Thomas, là, à moins, écoute, qu'il soit tout simplement pas remis de sa blessure à la cheville, mais ça semble pas être un problème dans son cas là actuellement. Donc, j'ai l'impression que les Saints vont sortir fort dans ce match-là.
Ouais, Drew Brees retrouve son jouet préféré, victoire des Saints, qui va gâcher un peu le retour de Teddy Bridgewater en Nouvelle-Orléans.
Et les Bills, eux, s'en vont sur la route favori par plus de 10 points pour affronter les Jets.
Les Jets. Je vais prendre les Bills, les gars, c'est aussi simple que ça. Les Bills sont vraiment dus pour un match complet, dominant offensivement et défensivement. Puis honnêtement, dans ce temps-là, la prescription du médecin, c'est d'affronter les Jets.
Excellent. Puis j'y vais avec les Bills aussi, évidemment. Mais la question, c'est pas est-ce que les Bills vont gagner. Il faut vraiment qu'ils sortent un gros match. Ils sont dus. Deux défaites contre des prétendants sérieux là, dans la conférence américaine. T'sais, coup sur coup, ils perdent. Ils se font écraser même par les Titans. Ils perdent sans trop d'équivoque contre les Chiefs. Ça fait mal un peu à l'ego des Bills. Je pense qu'il faut non seulement qu'ils gagnent contre les Jets, mais qu'ils aplatissent les Jets à plate couture, qui leur donne une bonne vieille volée. C'est ce qui peut redonner confiance à l'équipe. T'sais, s'ils l'emportent, mais que c'est un genre de match où ils gagnent 19 à 13, puis que Josh Allen est un peu chambranlant, il y en a qui vont commencer à se poser des questions là dans leur cas. Donc, faut pas que ça arrive, faut que tu gagnes, puis de manière là, convaincante au maximum.
Le prochain match, les Packers contre les Texans. Si les Packers gagnent ce match-là, il va y avoir des rumeurs d'échanges du côté de Houston. Toi, tu en penses quoi, Jean?
Ben, écoute, je regardais les Texans, puis je trouve que c'est une meilleure formation que leur fiche indique, qui est une victoire 5 défaites. Mais malgré tout ça, je vais prendre l'attaque des Packers, puis je pense qu'Aaron Rodgers va vraiment sortir un meilleur match que la semaine dernière. Puis maintenant, ben, tout ce qu'on va pouvoir dire, c'est que les Texans sont une meilleure équipe que leur fiche de 1 victoire, 6 défaites.
Ouais, j'ai pas le choix d'y aller dans ce sens-là. Écoute, les Packers, non seulement Rodgers va sortir meilleur que la semaine passée, mais surveillez Aaron Jones, le porteur de ballon. Tu sais, les Texans viennent de se faire piler d'en face au-dessus de 200 verges par Derrick Henry. Avant ce match-là, il donnait déjà 160 verges par match au sol. Je sais pas combien sont rendus, là, si vous ajoutez les 200 quelques de Derrick Henry. Mais il y a Aaron Jones qui salive en ce moment, qui a le couteau entre les dents probablement. Donc, les Packers, de manière, je pense, assez convaincante.
Les Seahawks, eux, s'en vont affronter Kyle Murray en Arizona.
Oui, écoute, la fiche des Cards depuis 2015, c'est 4 victoires, 5 défaites, 1 nul face aux Seahawks. C'est des matchs qui sont toujours âprement disputés. Puis moi, j'ai les Cardinals, un match, une victoire surprise des Cards. Je pense qu'ils vont être dans le match. Évidemment, quand tu affrontes une défensive poreuse comme celle des Seahawks, je pense qu'ils vont être en mesure de faire des points. Et pour une rare fois, le magicien Russell Wilson va être à court dans son chapeau de magie.
Ça, c'est un match qui m'intrigue beaucoup. On c'est sûr, on a tous hâte de voir en fin de semaine Steelers-Titans, mais s'il y a un autre match là, moi, que je ne veux absolument pas rater, c'est celui-là. Les Cardinals qui jouent très bien défensivement depuis deux semaines. Ça fait deux matchs de suite qui donnent seulement 10 points. Le maraudeur Buda Baker, vraiment, là, quand il a eu son gros contrat avant la saison, il y en a qui se demandaient, mais comment ça? Est-ce que c'est justifié? Il est en train de prouver que c'est le meilleur, sinon l'un des meilleurs maraudeurs à travers la NFL. On l'emploie partout sur le terrain, des fois comme secondeur aussi. Du côté de Seattle, ben c'est de voir est-ce qu'il y a encore, justement, comme tu le mentionnais, Jean, des tours de magie dans le sac à Wilson. Je pense que oui. C'est toujours des matchs corsés dans la division Ouest. On le sait, regardez les Niners qui viennent de surprendre les Rams. Ça se passe pas souvent comme on le pense. Puis il n'y a jamais un match normal des Seahawks, de toute façon. Il va arriver des rebondissements, il va arriver quelque chose d'inattendu. Je vais y aller avec eux. Mais ça va être, je pense, spectaculaire jusqu'à la fin.
Les Patriots sont favoris quand même par presque un touché contre les 49ers qui leur rendront visite en Nouvelle-Angleterre.
Ouais, c'est peut-être un peu un touché, mais j'ai les Pats qui se ressaisissent en fin de semaine. Je pense que Cam va avoir une bonne rencontre. Il y avait beaucoup de choses à se faire pardonner avec la semaine dernière. Je pense que c'est le genre d'attaque aussi que tu sais, Bill Belichick a vu toute sa vie là, ce genre de d'attaque au sol avec un outside zone, et puis après ça un bootleg. Il est habitué, là, le vieux Bill. Là. Il va avoir un bon plan de match. Puis j'ai vraiment l'impression qu'il va sortir George Kittle du plan de match offensif des Niners. Donc, j'ai une victoire des Pats dans ce match-là. Et je pense vraiment que la blessure de Raheem Mostert, c'est une blessure importante pour les Niners.
Ouais, j'ai l'impression que les Patriots vont sortir une bataille physique aux Niners. Là, ça va y aller au sol avec plusieurs porteurs de ballons différents, avec des jeux d'options de Cam Newton. Les Niners, trois fois cette saison, qui ont accordé plus de 100 verges au sol. C'est pas le front défensif qu'on a connu l'an passé. Là, oubliez pas que t'as Solomon Thomas, Nick Bosa qui sont plus là, qui sont blessés, DeForest Buckner qui est parti à Indy. C'est l'occasion pour les Pats d'imposer le style physique qui leur a fait avoir du succès en début de saison. Donc, j'ai l'impression que c'est comme ça qu'ils vont orienter leur plan de match et ça va fonctionner.
Les Broncos, forts d'un match de 6 placements, reçoivent les Chiefs.
Ouais, il va falloir plus que 6 placements pour battre les Chiefs. Il va probablement t'en prendre 18. Là. Ça risque pas d'arriver. Il va falloir que les Broncos ouvrent leur jeu beaucoup. Tu sais, Drew Locke a montré de belles choses, là, à part les deux interceptions horribles en fin de match contre les Pats la semaine passée. C'est un carrière qui est jeune, qui a très peu d'expérience. Tu sais, oui, il est à sa deuxième année, mais il est parti tard l'an passé. Cette année, il a été victime d'une blessure. Donc, on va pas commencer à taper dessus. Mais je l'imagine mal traîner cette attaque-là aller inscrire 30-35 points, là, parce que c'est ça que ça va prendre au minimum pour lutter contre les Chiefs. Donc, je le vois tout simplement pas dans ce duel-là, en arriver là à ce stade aussi précoce de sa carrière. Donc, victoire Chiefs avec beaucoup de points encore une fois.
Victoire des Chiefs aussi. J'ai juste un petit message à Andy Reid, c'est d'éviter de faire des faux filades du corps avec Patrick Mahomes. C'est parce que c'était à Denver que c'était arrivé. Donc, s'il évite ça, victoire des Chiefs sans problème.
Les Raiders et les Bucks, pas un match facile à prédire, mais peut-être c'est facile de prédire qu'il va y avoir beaucoup de points dans ce match-là aussi.
Oui, moi je pense qu'il va y avoir effectivement beaucoup de points qui vont se compter malgré la très bonne défensive des Bucks. Mais moi, ce que j'aime des Raiders, un, c'est qu'ils ont eu un bye, donc une semaine pour se préparer additionnelle là, contre la défensive des Bucks. J'aime la ligne à l'attaque des Raiders. Ils sont gros, ils sont pas fins. Ils veulent établir un jeu physique. Je pense qu'ils vont mettre en branle M. Jacobs au sol. Puis par la passe, ben je pense qu'ils visent un petit peu plus profondément. Ils sont un petit peu moins conservateurs. Ils ont plus d'outils aussi pour le faire. Maintenant, là, avec Ruggs comme receveur et Nelson Agholor, qui étrangement pogne les ballons cette année.
Mais
donc,
oui.
Victoire des Raiders, moi, dans mon cas.
Je vais y aller avec les Bucks ici parce que y a un aspect qui est sous-estimé de leur jeu. Ça fait 2-3 semaines en ligne que Ronald Jones, moi, c'est un porteur de ballon que j'avais un peu discarté. Là, c'est comme si je me disais qu'il avait raté son coup avec lui. 2-3 matchs en ligne là, qui est à 100 verges et plus au sol. Donc, c'est un aspect qui s'ajoute à l'arsenal offensif des Bucks. Une très bonne ligne à l'attaque. Le bloqueur recrue Tristan Wirfs qui joue vraiment du gros, gros football. Il accorde très peu de pression. Tom Brady, son uniforme était propre la semaine passée face aux Packers. Puis c'est en grande partie à cause du jeu de leur recrue. Un gros ajout de leur côté. Donc, le front défensif des Raiders qui devrait être neutralisé là, avec les Crosby et compagnie. J'y vais avec une victoire des Bucks dans le Pirate Bowl à Las Vegas. Ça devrait être du bonbon encore là dimanche soir.
Parlant de match qui devrait être du bonbon, est-ce que les Steelers vont battre les Titans? On a entendu un peu vos analyses plus tôt, Jean.
Écoute, c'est la deuxième meilleure offensive, celle des Titans, qui font face à la deuxième meilleure défensive. La meilleure, si on regarde celle des points marqués, celle des Steelers. Ça va être un match pour hommes. Ça va être le match le plus physique de la fin de semaine. L'équipe qui va être en mesure d'installer, je pense, ou gagner la bataille des fronts va l'emporter. J'ai l'impression que l'attaque balancée des Titans va faire mal paraître la très bonne défensive coriace des Steelers. J'ai une victoire des Titans de façon assez serrée, je dirais 24-21.
J'y vais avec les Steelers de mon côté. J'ai comme le feeling que Tannehill joue de l'excellent football, mais qui a peut-être pas été souvent sous une pression insoutenable comme celle à laquelle il pourrait faire face là, provenant des Steelers. Les T.J. Watt, Bud Dupree, Cam Hayward et compagnie, ça risque de brasser beaucoup plus là, autour de lui que dans les matchs précédents. Puis, tu parles de la bataille physique, c'est clair ça va être un match là où il va se donner des coups comme pas possible, ça va être vraiment très, très, très physique.
Je sais que c'est interdit, mais il va y avoir quelques coups de bonnet qui vont se donner dans ce match-là.
Ah oui, ça c'est clair, ça jouera peut-être pas toujours propre. Puis dans un match physique comme ça, moi, ça me fait peur du côté des Titans. La perte du bloqueur Taylor Lewan, c'est vraiment une force de la nature. C'est, on parle de gars qui sont pas fins, qui sont en bon anglais, là, nasty là, sur la ligne offensive. Ça en est un. Là. C'est un soldat pour les Titans. J'ai comme le feeling que ça va être difficile de ce côté-là sans lui et puis que les Steelers pourront en tirer profit.
Jacksonville traverse le pays au complet pour aller jouer à Los Angeles contre les Chargers.
Et tu viens de nous ramener sur le plancher des vaches, toi?
Ouais, ça a été un match un petit peu moins intéressant à regarder.
Un petit peu moins. Les Chargers qui, en plus, avaient une semaine de congé, donc vont être frais et dispo pour affronter les Jags. Je pense juste que les Jags manquent de punition. Écoute, c'est, comme j'ai dit, ça fait 5 matchs de suite qui donnent 30 points et plus. Ben, moi, je pense que ça va être un 6e pour dans le cas de Jacksonville, victoire des Chargers.
Ouais, c'est le temps pour Justin Herbert de développer sa confiance dans un match comme celui-là. Tu affrontes une défensive qui en arrache. C'est le temps d'aller chercher des gros jeux, d'étirer le terrain. Ça devrait bien fonctionner de ce côté-là. Les Jaguars qui sont capables d'arrêter personne actuellement. Puis, grosse régression du côté de Gardner Minshew qui montrait des belles choses l'an passé, qui était encore prometteur. Les deux premiers matchs cette année, il a été franchement bon. Depuis ce temps-là, il semble se chercher. Les Jaguars vont nulle part, donc victoire Chargers.
Et l'autre équipe de Los Angeles reçoivent les Bears de Chicago.
Ouais, au Monday Night Football. Écoute, je pense que je vais leur regretter cette prédiction-là, mais j'y vais avec les Bears. C'est un club que j'ai mal sizé depuis le début de l'année. Là. Ils me font mentir. Chaque fois que je pense qu'ils vont perdre, ben ils gagnent. Puis quand la seule fois que j'ai dit qu'ils allaient gagner, ils ont perdu. Donc, je joue avec les Bears quand même. Je pense que la défensive des Bears joue de mieux en mieux. Et ils vont être très coriaces encore une fois face aux Rams. Donc, ça veut dire que Nick Foles n'a pas beaucoup à faire pour l'emporter. C'est ce que je crois qui va arriver. Donc, victoire serrée des Bears.
Ça n'est un qui me fait hésiter beaucoup. Je vais y aller avec les Rams de façon très peu convaincue. Écoute, la défensive des Bears, j'ai rien à dire. C'est vraiment une défensive sérieuse. Tu sais, t'as des gars comme Khalil Mack, Hakeem Hicks, des gars dans tertiaire aussi là, qui sont extrêmement efficaces. Mais cela dit, la ligne à l'attaque des Rams me semble clairement améliorée là, cette année par rapport à l'an passé. C'est une autre attaque. On est capable d'attaquer au sol autant que par la passe. Ça va faire beaucoup à gérer pour les Bears. Puis dans un match où ils risquent d'avoir pas nécessairement beaucoup de points, je fais tout simplement pas confiance à l'attaque des Bears. Je le sais, Nick Foles est capable. C'est un corps arrière qui a été gagné un Super Bowl, mais ça me rentre pas dans la tête que cette équipe-là soit 5-1, encore moins 6-1 s'ils gagnent. C'est peut-être de l'entêtement de ma part parce que j'ai souvent dit depuis le début de notre émission cette année que les Bears avaient l'affiche la plus frauduleuse parmi les équipes gagnantes. Ils me feront peut-être mentir, mais écoute, peut-être que je vais commencer à peine à réaliser l'ampleur des dégâts, là. Mais je continue de croire que ce club-là, le château de cartes, va tomber tôt ou tard, puis ça commence cette semaine.
OK, merci les gars. On est en zone rouge, mais quand même, là, vous allez trouver le moyen d'envoyer des gars au bar. Restez là, on va savoir qui après la pause. I got a hangover. Whoa, I've been drinking too much for sure. I got a hangover. Whoa. OK, on est de retour pour la chronique au bar. C'est l'automne, là. Ça vaut la peine d'aller peut-être prendre une bière là, pour décompresser, mais les bars sont fermés. Qu'est-ce que vous allez faire?
On va l'ouvrir spécialement pour nos clients cette semaine parce qu'ils méritent. Ils méritent. Écoute, moi, j'envoie tout de go. Stephon Diggs au bar, le receveur des Bills de Buffalo. Il y en a qui vont dire, comment ça, Stephon Diggs est bon? Oui, il est très bon. Il est extrêmement talentueux. Il connaît une bonne saison. C'est pas la question. J'ai détesté profondément son attitude lundi soir dans le match contre les Chiefs. Écoute, on est au quatrième quart. Les Chiefs mènent. T'es dans une situation du côté de Buffalo où tu dois aller marquer deux fois rapidement. T'sais, faut que ça soit coup sur coup, pas de niaisage. On y va, on s'active. Ce que ça veut dire, c'est que chaque joueur doit être animé d'un sentiment d'urgence. T'sais, ça peut pas être 10 ou 9 ou 8, là, c'est tout le monde. On a le même sentiment d'urgence. On rentre dans le tas. Stephon Diggs, lui, après un jeu, revient non pas en courant, non pas en joguant. Il revient en marchant vers le caucus. J'ai détesté ça. J'ai trouvé ça tout simplement égoïste et inconscient. Ça mérite. Écoute, moi, la façon que je me disais, c'est qu'il avait abandonné un peu sur le sort de son équipe. Gros problème d'attitude. C'est comme s'il se sentait déjà un petit peu en vacances. Donc, on va poursuivre dans cette veine-là. Moi, je le condamne à aller boire plusieurs margaritas au bar. Tu sais, t'es en vacances, tu vas boire des margaritas. Puis, ça doit pas être drôle, honnêtement, d'être malade aux margaritas. Là. Ça doit vraiment passer mal. Écoute, Diggs, c'est le sort auquel je le condamne pour son attitude déplorable. Moi, je veux qu'un joueur joue jusqu'à la fin, jusqu'au dernier sifflet. Puis ça, c'est clairement pas ce qu'on a vu d'un receveur qui devrait donner l'exemple plutôt que de se faire traîner un peu là, par de force dans le caucus. Ah, « Viens-t'en, on a besoin de toi. » Non, là, il a pas montré l'exemple. Très décevant là, pour ma part. Il y en a qui vont trouver que c'est anodin. Moi, je trouve pas. Tu dois vraiment t'impliquer dans chaque jeu dans une situation comme celle-là. Puis toujours, là, de toute façon, mais particulièrement quand l'urgence comme ça là, le commande.
Jean, ça va être qui son partner de brosse?
Écoute, il va me trouver plate un peu, puis j'en vois quand même quelqu'un que j'aime bien. C'est l'entraîneur-chef par intérim, Romeo Crennel, des Texans. Tout simplement parce que je l'envoie lui et les stats avancés au bord. Écoute, les Texans prennent les dents par 7, il reste 1 minute 50 au lieu de botter le converti et mener par 8 et forcer les Titans à traverser le terrain. Et s'il compte d'y aller un converti de 2 points, lui a décidé de jouer le tout pour le tout, d'y aller avec un converti de 2 points. Ce qui devait arriver est arrivé. Il a fallu à la tâche. La mauvaise. Ben, écoute, les Titans sont revenus dans le match. Puis c'est surtout aussi le momentum. Les Texans avaient le momentum à ce moment-là. Ils étaient revenus de l'arrière. Puis là, le fait de ne pas compter, je trouve que ça a vraiment amené un down dans ce match-là à l'équipe de Houston. Et évidemment, ben écoute, les Texans sont revenus. Pas les Texans, mais les Titans sont revenus. Ils ont créé l'égalité. Ils sont allés gagner en prolongation avec la bite d'Eric Henry. Donc, pour ça, je condamne Romeo Crennel à prendre un Ricard au bord. Un petit pastis, les gars, mais... C'est juste un, parce que Romeo, j'y tiens. Je pense pas que c'est la plus grande forme de la NFL présentement. Donc, un, peut-être deux, mais qui dépasse pas deux. Puis le passé, ça peut être traite, les gars. Fait que on va essayer de garder Romeo en santé.
Puis on va lui demander de ne plus y retourner au bar. Là, si c'est pour boire du pastis, là, il est aussi bien d'y aller avec ce qu'il est sûr quand il mène par 7 points.
Exact.
OK, les gars, ben c'est ce qui conclut notre épisode de cette semaine. Merci à vous d'avoir été là. Merci à toi aussi, Stéphane. Merci à toi, Jean. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bye, tout le monde!